profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Comment se fabriquent les concepts? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invitée aujourd'hui n'est pas seulement professeure de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est aussi fan de séries télé et pense que le cinéma peut changer notre vie. Dans les chroniques qu'elle tient régulièrement dans le journal Libération, elle s'inquiète d'une fragilisation de la démocratie et tente d'éveiller nos consciences à notre vulnérabilité. Grâce à elle, de nombreux textes de philosophie américaine ont été traduits et enseignés en français. Emerson, Thoreau, mais aussi J.L. Austin et Stanley Cavell. À l'université, elle co-dirige un master sur le genre et elle y enseigne la philosophie américaine. Alors à l'issue de notre série d'émissions autour de Donald Trump et des élections américaines cette semaine, elle vient réfléchir ce matin à ce que peut la philosophie, ce qui distingue la philosophie française et la philosophie américaine, et ce que signifie tout simplement être philosophe. Bonjour Sandra Logier.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Comment est-ce que je vous présente, philosophe ou professeur de philosophie ?
Moi, je n'hésite pas, c'est vraiment professeur, avec un E bien sûr, ouais. de philosophie. Je sais que beaucoup de mes collègues revendiquent le titre de philosophe.
Mais pas tant que ça, raison. En fait, figurez-vous. Oui. À ce micro, en tout cas, ils n'osent pas le dire.
Et beaucoup de femmes, en particulier, veillent à ce qu'on revendique ce terme, parce que c'est souvent les hommes qui se disent philosophes plus que les femmes. Mais pour moi, c'est évident que, de toute façon... faire de la philosophie, c'est enseigner la philosophie. J'ai été moi-même formée par des grands et grandes professeurs. J'ai vraiment eu l'idée, le projet avec la philosophie d'enseigner, de former des nouvelles générations, mais pas seulement, aussi de transmettre au public des nouvelles idées, des nouveaux thèmes. Et donc, du coup, cette dimension d'enseignement, elle est bien sûr extrêmement précieuse pour moi.
Vous arrivez à définir ce qu'est la philosophie ?
Alors, la philosophie, comment la définir ? Je dois dire que j'ai tellement contesté, en fait, les définitions traditionnelles et j'ai tellement insisté, comme vous le savez, sur la philosophie du langage ordinaire, le rôle donc aussi des connaissances ordinaires, des compétences ordinaires dans la philosophie, qu'on pourrait croire que je n'ai pas vraiment de définition. Je crois que ce qui vraiment est une continuité dans ma réflexion, dans mon travail, c'est bien sûr une philosophie qui est une forme d'abord d'attention au langage, d'usage du langage. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été une constante en fait dans toute ma réflexion. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le langage, mais bon, c'est pas non plus original puisque bon, la philosophie est vraiment, dès le départ, chez Platon, par exemple, ancrée là-dedans, dans la conversation. Mais pour moi, c'est vraiment cela l'essentiel, c'est cette dimension du langage, mais aussi cette dimension d'attention, du fait justement que c'est dans les détails du langage, dans la perception en fait qu'on a du langage, des situations, que va émerger la philosophie et la pensée. Et puis, l'autre dimension, mais qui est liée au langage, bien sûr, pour moi, de la philosophie, c'est qu'elle est toujours liée à une voix, à la voix. Alors, c'est aussi lié à cette dimension de conversation, mais c'est aussi cette question de la voix au sens d'une sensibilité quasi, comme pour la musique, en fait. C'est-à-dire une forme de sensibilité à la justesse de ton et à finalement comment il peut y avoir cette justesse ou cette fausseté de ton dans la pensée elle-même. Et je crois que cette dimension de la voix, elle est aussi essentielle, bien sûr, dans la réflexion politique, qu'est-ce que c'est qu'avoir une voix, et dans tout itinéraire en philosophie, puisque finalement, c'est vraiment la recherche de sa voix propre qui va constamment nous faire avancer en philosophie.
Mais attention au langage, importance de la voix, de la conversation, de la justesse. Au fond, pour vous, la philosophie, elle est faite pour être pratiquée à la radio.
Exactement.
C'est tout ce qui se passe ici.
Mais j'ai toujours beaucoup apprécié, ce médium, les échanges, notamment avec vous, Adèle. Et je crois que ça compte beaucoup pour moi comme façon de faire de la philosophie aussi.
Alors, on va passer 50 minutes ensemble, Sandra Logier. On va remonter à l'origine de votre rencontre avec la philosophie, réfléchir sur vos influences philosophiques et extra-philosophiques. On va entrer dans votre atelier de fabricante de concepts et réfléchir avec vous au rôle de la philosophe que vous êtes dans la cité. Je vous propose de commencer avec un concept clé qui sera peut-être le fil conducteur d'une partie de votre travail, c'est celui de perfectionnisme moral. Avant d'essayer de le définir, eh bien voici une tentative, disons, hétérodoxe de définition. C'est Marvin Gaye qui la propose. C'est un terme bizarre, le perfectionnisme moral, Sandra Logier, qui n'a rien à voir avec la perfection et a tout à voir avec la perfectibilité. Comment est-ce que cette chanson de Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough, peut-elle nous mettre sur la piste de ce qu'est le perfectionnisme moral ?
Alors, je crois que c'est vraiment une chanson qui a une tonalité perfectionniste, mais de multiples façons. Bien sûr, il y a cette idée... Donc il n'y a pas de montagne voilà, qui serait assez grande pour m'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée d'aller au plus haut, hein, d'essayer d'avancer, hein, de progresser, mais de toujours considérer que le but est au loin. Hein. Donc ce qui est extraordinaire dans cette chanson, c'est bien sûr cette idée de mélanger en fait, se perfectionner, c'est-à-dire cette idée d'aller, de se porter en avant, au-delà de soi-même, constamment, mais aussi, bien sûr, cette articulation avec la chanson d'amour, classique aussi, donc cet entrelacement des sentiments et du perfectionnisme, je trouve que c'est ça qui donne sa puissance à cette chanson. Et puis vous disiez Marvin Gaye, ce que je trouve particulièrement touchant dans cette chanson.
Et Tammy Terrell, hein, je l'ai
voilà,
pas
cité. C'est que c'est Marvin Gaye et Tammy Terrell qui est donc sa partenaire de début de carrière, qui est une jeune chanteuse absolument talentueuse, qui est morte qu'à peine 25 ans, en fait, très tôt, et qui n'a pas du tout pu... poursuivre sa carrière. Donc je voulais aussi rendre hommage finalement, parce qu'on dit toujours Marvin Gaye finalement à propos de cette chanson, et justement aussi parce que c'est un duo avec cette espèce d'accord des voix qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu finalement une telle harmonie en fait entre deux voix homme-femme, et surtout c'est des voix qui sont vraiment à égalité. Et donc ça rejoint vraiment l'égalité des voix dont on parle à propos de certains films, hein, des conversations dans les comédies du remariage, hein, donc cette façon dont l'entrelacement des voix va aussi être une image en fait d'un idéal d'égalité. Et pour moi, la recherche de cet idéal d'égalité entre humains, mais particulièrement entre hommes et femmes, c'est pas un détail en fait. L'approche perfectionniste s'en fait vraiment partie de façon centrale et définitionnelle.
Ça vient d'où ce concept de perfectionnisme moral ?
Alors c'est vrai que ça sonne un peu nunuche en fait. On dit perfectionnisme puisque ça semble vraiment indiquer une forme d'activité un peu maniaque. mais en réalité. C'est vraiment l'idée de chercher en effet la perfection, mais de chercher la perfection au sens en fait de ce qu'on peut être soi-même de mieux. Et donc ce perfectionnisme, c'est une doctrine morale, bien sûr, hein, c'est vrai que c'est une forme de philosophie morale, mais qui va être décelée. Alors je crois qu'on doit parler de Stanley Cavell, hein, malgré tout, déjà, donc à ce propos, puisque c'est quand même lui qui a vraiment insisté sur ce terme de perfectionnisme. C'est vrai qu'il a été employé avant lui, mais par exemple, sous forme de méliorisme, on dit méliorisme aussi dans la philosophie américaine, dans le pragmatisme, c'est une idée qui émergeait déjà, mais méliorisme, c'est pas très beau non plus.
On entend le sens de s'améliorer dans méliorisme,
voilà.
En tout cas.
Il y a l'idée de s'améliorer, le perfectionnisme, c'est vraiment l'idée de prendre autrement en fait les questions morales et au lieu donc de les penser en termes de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, comment je dois agir, quel est le meilleur choix, c'est pas du tout donc en termes de décision ou de choix, mais ça va être donc en termes de trouver en fait sa voie, donc sa voie au sens du chemin, mais aussi de trouver sa voie toujours au sens vocal, et d'arriver donc à avancer et à arriver à une forme d'état supérieur de soi. Alors bien sûr, ça semble complètement désuet, comme le nom et la formulation. Je crois que ce qui est vraiment très très important, c'est de voir à quel point en fait ce perfectionnisme moral est indispensable aujourd'hui pour penser beaucoup de questions morales. Alors,
oui.
En particulier la question de la démocratie, puisque c'est vrai que si on n'a pas cette volonté soi-même d'être meilleur, bien le cœur même de la démocratie est menacé, puisque en réalité il faut aussi toujours vouloir arriver à cette qualité de la pensée, de la voix. Et je crois que c'est vraiment aussi l'aboutissement de la pensée de Stanley Cavell, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive pas tout de suite dans sa philosophie, c'est vraiment au moment de la découverte d'Emerson, Thoreau, mais surtout Emerson, qui est ce grand penseur américain, donc du 19e, qui a commencé vraiment à penser cette question de la confiance en soi, de la capacité en fait que l'on a de se fonder sur soi-même en fait. Alors Cavell appellera ça faire usage de soi-même finalement, ce qui rejoint aussi une approche de la philosophie du langage ordinaire. Donc qu'est-ce que c'est que faire usage de soi, de compter sur ses propres ressources, sur son propre jugement, pour en fait arriver à penser et à agir en politique.
De là où je viens, tout le monde sait qui est Emerson. Et presque personne ne sait qui est Emerson à la fois. C'est comme des chaussures que vous avez depuis des années. Vous les portez sans même vous rendre compte qu'elles sont encore là. Mais un jour, un beau jour, quelque chose vous apparaît. Et moi, j'espère être là ce jour. Et quand j'écris, parfois, j'ai beaucoup écrit, mais le sentiment le plus répandu pour moi est qu'un jour, quelqu'un va comprendre tout cela. Peut-être pas demain, mais on a ici Sandra Logier. Elle vit à des milliers de kilomètres de moi et elle me comprend, je vois qu'elle me comprend, elle écrit, c'est suffisant.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe, comme tous les vendredis qui donnent la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier aujourd'hui. En compagnie de Sandra Logier, vous venez d'entendre la voix du philosophe américain Stanley Cavell qui parle de vous. Sandra Logier, je sais à quel point Stanley Cavell a compté pour vous. Alors peut-être vous pouvez nous dire pourquoi et puis surtout comment vous l'avez rencontré.
Oui, il a compté, il compte toujours. D'ailleurs, c'est une rencontre vraiment, vraiment importante pour moi. Justement, un concept central de Stanley Cavell, c'est aussi l'importance et ce qui compte. Je crois que son idée de revenir dans notre vie à ce qui compte et au moment important, c'est central. Et donc, j'ai rencontré Stanley Cavell à Harvard, tout simplement, puisque j'étais allée faire un séjour là-bas quand je préparais ma thèse.
Ouais.
Donc, c'était dans les années 80, donc entre 83 et 85. Je dois dire que je ne connaissais pas, en fait, très bien son œuvre, puisque j'étais partie à Harvard pour faire une thèse sur le philosophe américain Willard Van Orman Quine, donc un philosophe analytique extrêmement intéressant, sur lequel je continue à travailler d'ailleurs aussi pendant des années. Et donc Quine avait enseigné là-bas et s'y trouvait encore. Donc c'était assez naturel pour moi d'aller là-bas. Et je suivais des cours dans le cadre de la préparation de ma thèse. Et donc, j'ai suivi des cours de Stanley Cavell. Et je dois dire que ça a été une expérience très importante. Et c'est aussi pour cela que, professeur aussi, ça veut dire quelque chose. Ouais. Puisque c'est vraiment entendre la voix d'un enseignant et... Je dois dire que j'avais connu aussi des grands professeurs, mais cette possibilité que j'entrevoyais, tout ce qui m'intéressait dans la vie, tout ce qui comptait pour moi, et une pertinence philosophique me permettent de faire de la philosophie. Bien sûr, Austin et Wittgenstein, mais bon, ça c'était déjà des intérêts que j'avais qui étaient... malgré tout, académiquement, complètement reconnaissable, mais de voir qu'il pouvait être vraiment le point de départ, une forme de définition de la philosophie, donc cette attention au langage, se demander qu'est-ce que nous voulons dire en parlant, c'était déjà extraordinaire. Et puis, des cours que Stanley Cavell faisait sur le cinéma et sur donc les grands films classiques de Hollywood.
C'est un des premiers philosophes à avoir introduit le cinéma dans le domaine de la philosophie, il faut le dire.
Je crois que c'est vraiment...
Sans doute le premier d'ailleurs, dans les années 60.
Probablement le premier, historiquement.
Avant Deleuze en
parlant, oui. Et puis d'une façon particulière, c'est pour cela que, bien sûr, c'est très important l'approche de Deleuze, mais ce que je trouvais extraordinaire chez Cavell, c'était cette façon de nous faire comprendre que la pensée était dans le film... lui-même, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment l'intelligence apportée par le film à sa propre réalisation, la contribution des acteurs du jeu et de l'expérience du spectateur à ce que c'était, en fait, que cette pensée du film. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui était une forme de révélation, d'avoir cette possibilité de faire usage de ma propre expérience, puisque c'est vrai que j'avais vu beaucoup de films, bien sûr, j'étais une cinéphile, bon, comme beaucoup de Français, mais vraiment depuis mon enfance, et donc d'avoir une philosophie qui corresponde, en fait, à cette appétence et à cette expérience du cinéma. C'est quelque chose que Cavell dit parfois quand on lui demandait « Comment ça se fait qu'un grand professeur de Harvard s'intéresse aux films de Hollywood ?» Des films qui, aux États-Unis, n'étaient pas considérés comme vraiment de la haute culture. Et il disait que la vraie question, c'était comment quelqu'un dont la vie et l'expérience avaient été formées par l'expérience d'aller au cinéma et trouver dans la philosophie la réponse.
C'est ça. Mais d'ailleurs, je vous adresse cette question-là. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans la philosophie que le cinéma ou les autres disciplines de vos études ne vous apportaient pas? Est-ce que vous arrivez à le dire, vous, ça?
Justement, je pense que c'est vraiment un certain type de philosophie. Et c'est cette philosophie que j'allais constamment, à partir de là, chercher à développer. Et ça m'a obligée à aller dans toutes sortes de directions. Mais quelle philosophie pouvait répondre, en fait, à la force de cette expérience qu'on a au cinéma, d'avoir effectivement un monde qui vous est donné, d'avoir des personnages qui sont plus réels que beaucoup de personnes qu'on connaît. Je crois que cette expérience-là, il fallait arriver donc à en trouver une forme d'équivalent philosophique en force, en fait. Mmh. Et donc, cette possibilité que donnait l'œuvre de Cavell, avec ce petit décalage qui était dû au fait que beaucoup des films dont il parlait étaient en France des classiques. Lui-même a toujours dû les revendiquer comme étant vraiment des œuvres culturelles extraordinaires, alors que nous, on n'avait pas ce travail à faire, d'une certaine façon. Ce qui a vraiment compté pour moi, c'est justement sa volonté de mettre en avant des œuvres populaires. Œuvres populaires qui étaient appréciées d'un très grand nombre, qui avaient été vues par des millions de personnes, les films auxquels il s'intéresse, par exemple « It Happened One Night », qui s'appelle « New York, Miami » en français, un film de Capra de 1934, avec Clark Gable, Claudette Colbert, est un film qui a eu une célébrité incroyable, qui a eu tous les prix, tous les Oscars, etc., et qui est aussi... une œuvre absolument, une œuvre d'art magnifique. Et donc, arriver à voir tout cela ensemble, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Et cette possibilité, donc, d'avoir le contact avec un vaste public, Donc, pour une œuvre d'art, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi pour cela que j'ai poursuivi à la fois dans la réflexion sur le cinéma et puis sur les séries télévisées, puisque finalement, ce sont elles aujourd'hui peut-être qui ont cette capacité-là. Simplement, elles n'ont pas encore reçu l'aura donc philosophique que Stanley Cavell avait donnée au cinéma.
Send for the dog. Custody of the dog will depend on his own desires. Mr. Warner, will you step up here, please?
Yes, Your Honor.
Unfasten him. You may each call the dog.
Mrs. Smith.
Smitty.
Hey, come on.
Smitty.
Hey, come on, boy.
Smitty.
Hey.
Boy, look up here.
Hey, look, come on,
look,
fella.
Smitty. Smitty.
Oh, come on.
You know who you are.
Come on,
Smitty.
Come on, boy.
Mrs. Smith.
Hey, come on. Come on,
look
fella.
Look up here.
Come on,
boy.
Don't pay attention,
Smitty.
Come on, Smith.
Smitty.
Come on, boy.
Look up here.
Come on.
Look up
pay attention,
here.
Come on, Smith.
You know me.
Come on, boy.
You know
come on,
come
on, fella.
This.
Come on, boy.
Smitty.
You don't want to miss those fishing
Smitty.
Trips. Come on, fella. Come on.
Smitty.
Come on.
Smitty. Smitty. Look up here.
No, don't. Come on.
Smitty.
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 Come on.
Smitty. Smitty. Ah, I win, don't I?
Custody of the dog is awarded to Mrs. Warren.
Well.
Et voilà comment on peut se disputer pour la garde, non pas d'un enfant, mais d'un chien. C'était un extrait de The Awful Truth, cette sacrée vérité en français qui date de 1937, Léo McCarey. Vous avez entendu Cary Grant et Irene Dunne qui, au moment de divorcer, eh bien, doivent décider de savoir qui va garder le chien. Une minute donc de tentative d'attirer à soi le chien. Ça paraît rien, Sandra Loger, ça paraît une scène comique qui va au mieux nous faire rire, et ça vous a peut-être fait sourire, même si on comprend pas tout ce qui est dit en anglais, on entend bien qu'il y a quelque chose de répétitif qui fait sourire. Et pourtant, c'est typiquement ce genre de scène qui vont donner du grain à moudre à la philosophe que vous êtes, au philosophe que était Stanley Cavell, et qu'il est toujours, par ses écrits, parce que je précise qu'il est mort il y a quelques années. Yeah. Et c'est exactement là que peut se jouer l'articulation entre deux choses qu'on oppose, à savoir la philosophie d'un côté et le cinéma de l'autre. Comment se rencontre-t-il dans ce type d'extrait, Sandra Loger ?
Alors, The Awful Truth, de surcroît, c'est vraiment, d'après Cavell et nous aussi, hein, donc c'est vraiment peut-être la plus profonde, la plus radicale hein, des comédies hein, du remariage. Et Cavell y a consacré un ouvrage entier à ces comédies, mais c'est vraiment le dernier chapitre, hein, parce qu'on touche là à quelque chose de très... très essentiel de la façon dont la relation de couple est une relation qui va être philosophiquement insignifiante et également politiquement hein, d'ailleurs donc et qui va vraiment permettre de poser des questions philosophiques essentielles. Cette scène est en effet assez extraordinaire puisqu'on peut-être que le couple Irene Dunne Cary Grant est certainement celui qui arrive le mieux à exprimer cette radicalité philosophique de cette relation qui va commencer avec à la fois une rupture, hein, puisque tous ces films, presque, enfin il y a des variations, hein, mais tous ces films commencent par un divorce, une séparation. Hein, donc c'est ça la comédie
donc, ces films,
du remariage.
Voilà, les comédies de remariage, qui est un genre cinématographique inventé par Stanley Cavell dans son ouvrage À la recherche du bonheur. Il y en a plusieurs qui ont toutes à peu près le même scénario, et donc qui commencent par une rupture qui va se terminer avec un remariage symbolique.
Et c'est assez particulier si on y réfléchit, puisque on imagine souvent que les scénarios romantiques vont plutôt être des rencontres, des difficultés pour arriver à se trouver, à se mettre ensemble. Et là, les comédies du remariage, c'est vraiment donc le couple qui va se séparer, d'ailleurs pour d'excellentes raisons, hein, on le voit même dans cette scène, il n'y a pas du tout l'idée qu'il n'aurait pas dû, hein, donc c'est vraiment une sorte de rupture assez irrémédiable avec des trahisons et même là pour avoir la garde du chien donc en fait Lucie donc Irene Dunne va user d'un espèce de subterfuge pour vraiment obtenir le chien donc de façon assez évidemment assez malhonnête hein, mais tous les coups sont permis hein, bien sûr cette rupture va en fait représenter une espèce de perte de la vie quotidienne et du réel en fait. C'est-à-dire que la rupture du début dans ces films est une figuration de ce qu'on appellerait en philosophie le scepticisme, hein, scepticisme radical, puisque ce qu'on perd c'est une forme de relation absolument structurante hein, et on va donc perdre le contact avec autrui. Et l'ensemble du film, et donc de ces 7 films, et il y en a beaucoup d'autres, hein, puisque ce qui est marrant, c'est qu'il y a énormément énormément de films qui ont cette structure du remariage, même des séries et télé aussi. Et donc, l'intérêt donc, de cette structure, de ce paradigme du remariage, c'est de mettre en évidence, en fait, ce parcours de réconciliation de ces deux êtres et la façon dont chacun va faire alors des efforts, si j'ose dire, ou en tout cas va agir de façon à retrouver le fil de la conversation et arriver chacun à reconnaître en fait sa propre ses défauts, sa propre vulnérabilité aussi, hein, une forme de fragilité de chacun que ils doivent en fait accepter pour retrouver en fait comme on le dit à la fin de ce film bien faute chose hein, la même chose mais différemment hein, ouais. Comment arriver à retrouver cette conversation et à arriver vraiment à avoir une relation égalitaire.
Mais ça veut dire que le couple serait ici une sorte de modèle de notre rapport au monde. Se séparer de quelqu'un, c'est prendre conscience qu'on est toujours un peu séparé du monde et qu'on voudrait le reconquérir ?
Alors, je pense qu'il y a une double dimension hein, dans cette idée du couple. Hein. D'abord, oui, le couple, il y a une dimension extrêmement fondatrice hein, du couple, hein, qui a pu d'ailleurs gêner certains lecteurs. Hein, mais, puisque, bien sûr, c'est le couple hétérosexuel, blanc, cela dit, il y a là une structure de couple qui fonctionne pour tous les couples. C'est ça qui est extraordinaire hein, dans la recherche du bonheur, hein. C'est vraiment quelque chose qui est approprié à toute relation de couple et à la dimension aussi d'amitié qui est indispensable en fait à la relation de couple. Et en effet, la perte donc de cette relation symbolise la perte du monde, l'éloignement du monde dans lequel nous place le scepticisme. Hein, donc la difficulté que l'on a à reconnaître autrui, à vraiment assumer une relation avec autrui. Donc c'est assez remarquable puisque il y a l'idée que une relation aussi ordinaire quotidienne que celle de couple est nécessite en fait une forme de d'exposition à l'autre et de reconnaissance aussi de l'autre qui est absolument considérable. Et c'est cela donc à quoi il faut arriver, c'est ce processus auquel on parvient dans ces comédies. Et pourquoi ça reste des comédies et très agréables à voir, c'est parce que ce processus se fait par divers incidents, diverses scènes à la fois de disputes et de débuts de réconciliation, et surtout, bien sûr, par la conversation.
Ouais.
Et donc, ce qu'on a avec ces films, c'est aussi une forme d'utilisation immédiate d'une technique qui arrive à l'époque, qui est celle du cinéma parlant, en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est le fait que dès lors qu'on a cette technique, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, on va présenter un couple qui se dispute et qui se réconcilie. Et c'est ça, en fait, l'objet du parlant, en général. Hein, c'est vraiment cela qui va permettre le développement de ce genre et le développement aussi de ces acteurs, de ces couples qui sont, effectivement, que la caméra adore les voir se disputer, échanger sur ce grand écran. Et donc, cette conversation devient, en fait, un objet central pour le cinéma, comme pour la philosophie. Hein, c'est vrai que c'est vraiment cette conversation qui permet à chacun d'avancer, d'évoluer et, au final, d'arriver à renouer le fil et à se retrouver. Et également, à retrouver, en fait, l'habitation de la vie ordinaire, du temps. Et ce qu'on a à la fin de Dear Faute Chose, il y a une petite scène très amusante, bien sûr, il faut l'avoir vue, mais on voit un petit coucou traditionnel avec deux petites figurines qui en sortent à chaque heure, hein, qui décomptent le temps qui reste au couple avant que leur divorce soit prononcé. Et donc, dans la dernière image, on voit finalement le couple rentrer ensemble, en fait, dans la petite maison du coucou, en déviant en fait de leur trajectoire. Et il y a vraiment ce côté effectivement déviant de cette réconciliation qui n'est pas complètement normale. Et surtout, il y a cette idée du coup qui va être extrêmement philosophique, même métaphysique, comme l'indique tous les dialogues qu'il y a à la fin du film, hein, qui sont quand même d'une très très grande densité philosophique. Donc l'idée d'accepter la mortalité, d'accepter l'habitation ordinaire du temps pour des personnes qui finalement essayaient en gros de nier cela. Et donc la richesse de ce film extraordinaire. Mais ce qui est important aussi pour ces films, c'est que le couple non seulement va figurer le scepticisme, la façon de surmonter le scepticisme, d'accepter la connaissance, la reconnaissance de l'autre, mais va aussi figurer ce que c'est que l'union le rapport politique égalitaire et la démocratie, qui est aussi au cœur des discussions à l'époque de ces films.
Alors on va venir à la dimension politique, mais avant cela je voudrais qu'on précise quelle est la conception de la philosophie qui est à l'œuvre lorsque vous parlez du cinéma, dans tout ce que vous venez de nous dire sur ce que le film nous apporte au fond. C'est-à-dire que ça implique déjà de ne pas considérer le cinéma uniquement comme un divertissement, mais aussi comme une manière de réfléchir sur notre propre rapport au monde. Mais il semble y avoir un fossé gigantesque entre la philosophie telle que vous venez d'en parler, à travers le travail de Stanley Cavell, à travers votre propre travail, Sandra Logier, et par exemple, ce qu'on peut entendre ici.
De mon point de vue, la philosophie continue avec la physique et la science naturelle. La philosophie diffère de le reste de la science seulement en être plus générale et de s'occuper des structures de notre système du monde, structure plus générale que celui qui occupe le physicien ou les autres scientifiques plus spéciaux. Mais tout ce qu'on peut emprunter de la science naturelle qui aide à allumer les problèmes philosophiques est bien légitime.
Sandra Logier, vous venez d'entendre la voix de Willard Van Orman Quine, le philosophe Quine sur lequel vous avez travaillé pour votre thèse qui s'appelait « L'apprentissage de l'obvi, le point de vue logique dans la philosophie de Quine ». Et il n'est pas nécessaire d'être familier avec sa pensée pour entendre, parce qu'en plus là il parle français, et donc comprendre que la conception de la philosophie qu'il tente de former, en tout cas dans cet extrait, ne semble pas avoir grand-chose à voir avec ce que vous venez de dire. Alors, je sais bien que c'est très difficile de définir la philosophie, et tous les vendredis, les philosophes qui sont là, derrière ce micro, proposent une définition différente, voire ne la définissent pas. Mais là, on a l'impression qu'il n'y a aucun point commun. Alors, vous êtes faites des deux. Est-ce que c'est de la schizophrénie, ou est-ce qu'en fait, il y a quelque chose de commun entre la philosophie qui s'approche d'une certaine logique, voire scientifique, et de l'autre, une philosophie qui va s'intéresser au cinéma et à notre manière de vivre?
Je comprends qu'on puisse être surpris. Pour moi, c'est vraiment une continuité. Et Quine, pour moi, représente vraiment quelque chose de très fort hein, dans philosophie, et qui est d'ailleurs à l'origine de la philosophie analytique, qu'on va trouver chez Wittgenstein, en fait, aussi, particulièrement dans le premier Wittgenstein du Tractatus, mais aussi plus tard, et aussi, même parfois chez Austin, hein, puisque c'est, malgré tout, l'idée que l'examen du langage, hein, l'examen aussi de notre façon de connaître va nous apporter en fait quelque chose philosophiquement important. Et donc je suis vraiment partie de cela. Et vous notiez que Quine parle français très bien. Il parlait toutes sortes de langues en fait. C'est vraiment un polyglotte qui a toujours aussi voyagé énormément et qui a mis au cœur en fait son système philosophique une réflexion sur je crois que c'est ça qui m'a intéressé chez lui au départ sur ça. Bien sûr c'est cette question de la traduction qu'est-ce qu'il y a de commun entre les différentes langues. C'est-à-dire que la thèse la plus connue de Quine, c'est quand même sa thèse d'indétermination de la traduction radicale, où il s'interroge sur comment on va traduire une langue quand on va arriver, comme il dit, dans la jungle. Hein. Bon, c'est une vision un peu primaire de l'anthropologie, mais c'était vraiment une situation anthropologique qui le fascinait. Et il dit, comment est-ce qu'on va arriver finalement à savoir ce que veut dire tel ou tel mot qui va être prononcé dans telle situation. Et donc, cette réflexion sur le langage, sur la traduction et le fait donc, qu'il y ait ces formes d'irréductibilité dans la difficulté de traduction, puisque c'est pas seulement qu'on a du mal à comprendre, c'est que ça n'a même pas de sens finalement de se demander si on renvoie à la même entité. Avec les deux mots dans une langue ou une autre. Donc c'est vraiment cela, au départ, qui m'a intéressée chez Cohen. D'ailleurs, j'avais fait mon mémoire de maîtrise sur sa thèse d'indétermination à traduction, mon DEA et ma thèse sur cette question-là. Et j'ai toujours eu, en fait, cet intérêt sur cette dimension anthropologique de la réflexion sur le langage. C'est quelque chose que j'ai retrouvé, bien sûr, chez le second Wittgenstein, que j'ai retrouvé dans la lecture par Stanley Cavell de Wittgenstein, que j'ai retrouvé plus récemment dans l'œuvre de Vinadas, qui est une anthropologue qui utilise beaucoup Wittgenstein. C'est vraiment cet ancrage dans cette inquiétante étrangeté de l'usage du langage, en fait. Hein, que c'est pas du tout quelque chose qui est donné, mais quelque chose qui, en réalité, reste constamment à apprendre, assez mystérieux et toujours objet de revendication. Et donc, bien sûr, Quine est un philosophe analytique assez classique, qui va avoir une vision un peu comme celle qu'on trouve chez beaucoup de philosophes analytiques de la première période, avec l'idée que le langage va être fait pour, effectivement, décrire la réalité, s'ancrer dans l'expérience pour arriver à cette approche réaliste du monde. Mais pour moi, c'est pas du tout un idéal qui est incompatible, en fait, avec ce que j'ai voulu faire ensuite. Simplement, pour moi, le meilleur outil pour arriver à cette description exacte de la réalité, ça n'était pas, en fait, le langage de la science, comme le dit Quine constamment, mais en fin de compte, c'était plutôt le langage ordinaire. Et c'est pour cela.
C'est quoi le langage ordinaire?
C'est le langage en tant qu'il est dit par des personnes ordinaires dans des situations de tous les jours. Et ce n'est pas donc le langage de la science, puisque le langage de la science a en réalité une forme de...
Donc c'est le langage qui n'est pas expert de quelque chose, c'est ça le langage ordinaire?
Et surtout c'est le langage qui est, comme dit Wittgenstein, en circulation, qui est utilisé dans telles circonstances, donc qui doit avoir une pertinence. C'est vraiment le langage en tant que, pour avoir un sens, il doit être dit à quelqu'un dans
selon le contexte, les usages.
Et donc dans le contexte. Et donc le livre que j'avais écrit, c'est à la fin de 99 en fait, qui s'appelle Du réel à l'ordinaire. C'était vraiment ça en fait, la thèse principale. Et bon, c'est un petit livre, mais ça m'a toujours finalement servi de guide à moi-même. C'est ça le perfectionnisme, avec cette idée que finalement l'idée qu'on a chez Wittgenstein dans le Tractatus aussi, donc l'idée qu'il faut avoir une approche exacte, une description du réel, en fait, elle ne m'a jamais abandonné, simplement, pour avoir cette description-là, pour avoir plus de précision, il faut entrer dans les détails de la vie, c'est pas un langage technique qui va vous permettre, en fait, d'arriver à réellement approcher le réel.
La prochaine question, c'est pas moi qui vais vous la poser, Sandra Logier, c'est Benoît Hamon.
Sandra, bonjour. La question que je voulais te poser, c'est la suivante. On vit une période dans laquelle il semble, comme dit un autre intellectuel, Patrick Duivray, compliqué de se mettre d'accord sur nos désaccords. On a l'impression aujourd'hui que dès lors qu'il y a un désaccord, celui qui est en désaccord avec vous, vous bannit, vous condamne à l'exil, et on viendrait presque même dans le champ politique à vous dénier parfois toute forme d'humanité. Comment est-ce qu'on répare tout ça? Comment est-ce qu'on répare le monde quand on constate que les individus se tribalisent à ce point, s'isolent, se communautarisent, se réunissent en castes, en clans, en groupes, en tribus? Comment est-ce qu'on répare tout ça? Bon, vous avez 4 heures, Madame Logier, peut-être même 24 heures pour répondre à cette question. À bientôt.
Non, vous avez moins de 10 minutes, Sandra Logier. Il était temps qu'on aborde cette dimension politique. Comment est-ce que vous avez rencontré et travaillé avec Benoît Hamon?
Alors, de toute façon, j'ai toujours été une militante. C'est vrai que ça fait
socialiste,
partie de... Oui, tout à fait. Bon, parfois un peu ailleurs, mais globalement socialiste. Donc, j'ai m'étais vraiment impliquée dans la dans la campagne de la primaire, hein, donc en 2017. Et du coup, voilà, je suis entrée un peu dans l'équipe de Benoît Hamon. Hein, ça a été vraiment très, très, très passionnant pour moi, hein, même si ça n'a pas forcément réussi. Mais je crois que, voilà, je pense que de toute façon, au plan personnel, il vaut mieux des échecs hein, que des réussites hein, quand on est philosophe dans ce domaine-là, oui. À mon avis. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une personnalité que je trouvais extrêmement intéressante et attachante, et avec un projet dont on se rend compte maintenant qu'il était quand même très en avance, finalement, avec toutes sortes d'idées qui, à mon avis, seraient extrêmement utiles aujourd'hui et qui, si elles avaient pu être appliquées, peut-être changeraient les choses. Et par ailleurs, oui, ça ne m'a jamais gênée, au contraire... d'avoir des engagements politiques. Je sais qu'on peut avoir l'impression que finalement, on perd une forme d'objectivité quand on a ce type d'engagement. J'ai eu des engagements féministes aussi, hein, comme vous le savez. Mais je crois que, au contraire, hein, je pense que le fait d'avoir un point de vue, ben, c'est cette question du contexte aussi dont on parlait. Le fait d'avoir un point de vue, donc d'avoir un engagement, et aussi quelque chose qui vous permet de voir plus de choses aussi, de découvrir plus de la réalité. Et donc, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là.
Et donc, il vous pose une question, comment réparer le monde ? Le diagnostic, c'est celui du communautarisme, en fait, on peut le dire, c'est le mot qu'il emploie, il parle aussi de tribalisme, etc. Comment est-ce qu'on répare un monde qui est fragmenté ?
Oui, c'est vraiment une difficulté qui rejoint cette question du scepticisme hein, dont on parlait tout à l'heure, puisque le scepticisme, c'est justement, c'est ce qui est figuré d'ailleurs dans It Happened One Night, dans New York Miami, par un mur hein, qui est entre les personnes. Hein, en fait, c'est vraiment cette idée qu'on ne peut pas avoir une communauté avec d'autres personnes. Et donc, bien sûr, hein, c'est une difficulté extraordinaire, surtout en ce moment, hein, puisqu'il y a l'impression de vraiment des ruptures et des séparations entre diverses communautés et des façons de ne pas pouvoir se parler ni se comprendre. C'est une impression que j'ai de façon très forte, de façon différente, hein, à propos des États-Unis aussi, où là, c'est absolument radical, hein, l'idée qu'on a des visions du monde complètement incompatibles. Et donc, bien sûr, hein, cette idée de la réparation, qui est très chère à Benoît Hamon, hein, je crois qu'il faut vraiment se demander ce que ça peut être, c'est-à-dire comment est-ce que, en effet, on peut travailler à la reconnaissance d'autrui comme étant un humain égal à... égal au lieu de le ou de la déshumaniser. Et je pense que cette question, justement, à la fois de la reconnaissance et surtout, bien sûr, pour moi, l'attention et le souci d'autrui. Hein. Je crois que c'est aussi pour penser ce genre de problème que je me suis beaucoup investie dans la notion de care. Alors, c'est un mot anglais, hein, disons, ce qui met toujours un peu mal à l'aise, mais il n'y a pas de mot français pour ça. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment le souci d'autrui, hein, le souci des autres. Pour moi, c'est vraiment fondamental si on veut arriver à surmonter en fait des difficultés.
Mais ça, personne ne vous dira le contraire. Le souci d'autrui, personne ne vous dira il faut pas faire attention à autrui.
Oui, ça c'est tout à fait exact. Hein. Tout le monde sera d'accord pour l'idée de faire attention à autrui.
Ouais. Mais pour et donc, est-ce que le travail philosophique peut nous apprendre ou l'engagement politique?
Oui. Faire réellement attention à autrui, hein, c'est-à-dire reconnaître en fait l'importance d'autrui.
Ouais.
Et vraiment le reconnaître comme égal et comme en particulier aussi compétent que moi, politiquement, intellectuellement. Donc on revient à cette question de la culture populaire aussi. Mm-hmm. Hein, mais je crois que c'est vraiment ça qui est au cœur de la démocratie. Hein, c'est quand même l'idée que tous les citoyens d'une société d'État ont... à dire quelque chose qui est valide donc pour notre société. Et mon idée dans beaucoup d'écrits philosophie politique hein, que j'ai produit hein, notamment avec mon ami sociologue Albert Ogien, c'est vraiment l'idée que en réalité on en est très loin, c'est-à-dire que même quand on se dit démocrate, même quand on se dit tout le monde sait que le souci d'autrui c'est important, en réalité on n'est pas du tout capable de reconnaître en fait l'autre comme son égal politiquement et on n'est pas non plus capable de se soucier réellement des autres au sens où on reconnaîtrait aussi ce qu'on doit finalement à toutes sortes d'autres personnes dans sa propre existence sociale et intellectuelle. Et donc, on en revient à cette question du scepticisme. Finalement, il y a énormément de choses qui sont de l'ordre du déni hein, dans notre rapport à la politique. C'est vrai que finalement, on ne reconnaît pas sa propre incapacité à être vraiment démocrate. On ne reconnaît pas donc, ce qui fait vraiment vivre notre société. On l'a vu récemment aussi hein, avec la crise sanitaire. Et je crois que ce qui compte pour moi, ben justement, c'est d'arriver à réfléchir à comment faire compter, hein, comment faire que la vie de chacun compte de la même façon.
Mais alors, quel est le rôle que vous vous attribuez en tant que philosophe dans ces contextes de crise ? Alors, vous avez coécrit avec Najat Vallaud-Belkacem un tract publié chez Gallimard, La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise, et même plus récemment, à quelques jours de l'assassinat de Samuel Paty. Est-ce que vous vous dites que vous avez un rôle en tant que professeur de philosophie ? Et si oui, quel est-il ?
Oui. Alors, bien sûr, on a un rôle en tant que philosophe. Ne serait-ce que d'éduquer, de faire connaître des idées et d'essayer de lutter contre les différents préjugés, hein, c'est certain. Mais pour moi, je crois que c'est clair à partir de tout ce que j'ai dit et de cette réflexion à partir de la vie ordinaire. Pour moi, le philosophe, justement, n'a pas de position privilégiée hein, qui lui permette de dire comment il faut penser, comment il faut réagir à tel ou tel événement. C'est vrai que j'ai toujours été un peu gênée, même si en soi-même on finit toujours par pontifier un peu avec l'âge, mais malgré tout, le point de vue de beaucoup de penseurs et de philosophes qui consiste à dire que leur parole vaut beaucoup plus que les autres, qu'elle a vraiment une pertinence spécifique et donc il y a une forme de supériorité. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé en fait gênant.
Mais donc la parole des philosophes n'est pas plus intéressante à entendre en ce moment qu'à un autre moment.
Pas plus en ce moment que d'autres personnes en tout cas et d'autres compétences. Ça fait longtemps que je considère que beaucoup de chercheurs ou de paroles en sciences sociales, par exemple, ont beaucoup de pertinence pour penser les problèmes.
Oui, mais du coup, ça peut reléguer la philosophie au second plan. C'est jamais la plus pertinente. Prendre la parole en tant que philosophe, ça ne veut pas dire se considérer comme étant supérieur parce qu'on est philosophe. Ouais. C'est aussi montrer que la philosophie peut avoir une utilité, si elle en a.
Oui, bien sûr. Je ne pense pas que c'est se reléguer au second plan que de considérer que la philosophie doit avoir une place, en effet, qui n'est pas en surplomb. Je pense qu'une des difficultés en fait, de la parole intellectuelle, c'est justement très souvent, et pour moi d'ailleurs c'est une difficulté spécifiquement masculine, mais beaucoup de femmes malgré tout ont cette tonalité-là. Cette difficulté qui vient d'une forme de position de supériorité, mais bon, qui n'est pas parfois propre à la tonalité philosophique. Je crois qu'il y a toujours, en fait, et c'est en cela que la pensée, la philosophie du langage, la pensée de Wittgenstein, de Stanley Cavell, ça reste très présent pour moi, hein, puisqu'il y a toujours cette idée de revendication et d'incertitude dans toute parole qu'on va prononcer, hein, même dans l'usage du langage en tant que tel, hein, puisque finalement rien ne me permet de parler au nom des autres hein, et de vouloir me mettre justement en surplomb ou même de vouloir avoir un discours universel. Et en même temps, si j'ose dire, eh bien ce discours, on est malgré tout contraint de l'avoir, hein, puisque dès lors qu'on prend la parole, hein, dès lors qu'on s'exprime, on va en fait revendiquer une validité de ce qu'on dit. Et donc il y a une forme pour moi, de grande contradiction qui est une forme de de fragilité dans la voix elle-même, hein, dans cette capacité que l'on a en effet à prendre la parole, à s'exprimer donc pour tout le monde, tout en sachant que au final tout ce qu'on fait c'est s'appuyer sur ce soi, hein, et c'est cela en fait qui définit la confiance en soi d'Emerson, hein, finalement on revient à cela, puisque la confiance en soi c'est pas la confiance en un soi qui serait vraiment solide avec ses convictions et sur quoi on s'appuierait, hein. C'est justement quelque chose qui ne peut que se construire à chaque instant et de façon assez fragile.
Merci beaucoup Sandra Logier d'être venue ce matin nous parler de votre conception et pratique de la philosophie. Je renvoie à La société des vulnérables et les leçons féministes d'une crise coécrit avec Najat Vallaud-Belkacem qu'on trouve dans la collection Tract chez Gallimard. Nos vies en série télé aux éditions Climat qui est paru en 2019. Recommencer la philosophie, Stanley Cavell et la philosophie en Amérique aux éditions Vrin. La liste de vos ouvrages et de vos publications est longue, on la mettra sur le site des Chemins de la philosophie. On se quitte avec une chanson. C'est une proposition de votre part, Patrick Bruel, Place des grands hommes. Pourquoi ce choix ?
Alors, c'est un choix générationnel parce que finalement, c'est quelqu'un de ma génération, on a vraiment le même âge. Et c'est vraiment aussi une façon de me rappeler cette génération, de me rappeler d'où je viens, de me rappeler que cette chanson a compté pour moi.
Ouais.
À un moment de ma vie, et toujours, hein, je l'écoute encore avec plaisir. Et puis, c'est une chanson qui est un hommage aussi à l'amitié, à tous les gens avec qui on grandit et avec qui on vieillit. Bon, certains disparaissent, bien sûr, en cours de route. C'est vraiment cette façon dont les relations à autrui et les relations avec les gens qui comptent vont, en réalité, structurer nos existences.
Merci beaucoup Sandra Logier, voici donc Patrick Bruel.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, pas nager le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue souffle. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle, Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient, remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir, si j'y allais pas je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure, comme tous les vendredis, de retrouver notre instant archive, la philo dans le rétro, aujourd'hui en compagnie de Merleau-Ponty. C'est comme un profession philosophe avant l'heure, il répond ici, dans cette archive du 22 mai 1959, à la question « Comment êtes-vous devenu philosophe ?»
Vous croyez avoir la radio ?
Vous n'aurez vraiment la radio qu'avec un poste moderne.
La radiodiffusion télévision française présente Entretien avec Maurice Merleau-Ponty, professeur au Collège de France. Une émission de Georges Charbonnier. Aujourd'hui, première émission, La vocation du philosophe.
Maurice Merleau-Ponty, comment êtes-vous devenu philosophe et acceptez-vous que l'on dise de vous que vous êtes un philosophe ?
Oui, bien entendu. Maintenant, comment je le suis devenu? Enfin, ça me paraît presque impossible à expliquer, parce que... il me semble l'avoir toujours été. À la vérité, tout d'abord, jusqu'à ma classe de seconde, je n'étais pas du tout porté sur les choses de l'intellect et de l'esprit. Je me rappelle que je jouais beaucoup au football et que c'était ça ce qui m'intéressait. Puis, en seconde, alors, j'ai eu un professeur très jeune qui revenait de la guerre, je me rappelle, et que nous admirions beaucoup. La présence de ce professeur a évidemment joué un rôle. Je me suis dit, je ferai des études comme l'école normale, par exemple. Puis alors, quand je suis entré en philosophie l'année suivante, ça a été absolument immédiat. Dès la deuxième ou troisième leçon, je me suis rendu compte que la manière de prendre les questions, le genre de curiosité que représente la philosophie, était une fois pour toutes ce qui m'intéressait.
Pourquoi, en profondeur, avez-vous eu ce goût immédiat pour la philosophie?
C'est naturellement beaucoup plus difficile à dire. Ce que je peux dire, c'est que la philosophie m'est apparue d'emblée comme quelque chose d'extrêmement concret. Pas du tout comme construction de concepts, de systèmes, mais plutôt comme expression, élucidation, explicitation, comme vous voudrez dire, de ce que nous vivons tous, et de ce que nous vivons de plus concret. Et je crois que certains deviennent philosophes parce qu'ils sont le siège de conflits, pas parce qu'il y a en eux des tendances contradictoires, alors ils éprouvent le besoin d'arbitrer ces tendances ou de choisir entre elles. Ça n'est pas du tout mon cas. J'ai conçu la philosophie comme, non pas du tout comme un drame dès ce moment-là, mais plutôt comme quelque chose d'assez apparenté en somme à l'art, si vous voulez. C'est-à-dire comme une tentative d'expression rigoureuse, de faire passer en mots ce qui, d'ordinaire, ne se met pas en mots, ou ce qui, même quelquefois, est considéré comme de l'ordre de l'inexprimable. Voilà le genre d'intérêt que la philosophie a suscité chez moi d'emblée.
Pas de désaccord entre le monde et vous, au départ?
Absolument pas. Je dirais même que, souvent, n'est-ce pas, on définit les jeunes gens comme des êtres qui se sentent de trop. C'est une formule sartrienne, je crois. Eh bien, jamais je ne me suis senti de trop. Je ne me sentais pas non plus justifié, je ne me sentais pas un élément nécessaire du monde, mais jamais je n'ai eu cette espèce de vertige, cette impression, encore une fois, vertigineuse, qu'il n'y a pas de raison de faire ceci plutôt que cela. Jamais je n'ai éprouvé de tels sentiments. Je pense que cela doit tenir à... Cela doit remonter très loin, n'est-ce pas? Quand je me souviens de mon enfance, je me souviens du bonheur. Et je n'ai pas eu une enfance déchirée, c'est peu de dire cela même. Il faut dire au contraire que j'ai su ce que c'était que le bonheur. Vous savez, je crois que Freud disait que c'est un secours extraordinaire pour un être humain d'avoir été aimé. Eh bien, en ce sens-là, j'ai eu ce secours aussi pleinement qu'on peut l'avoir. Et alors, il en résulte une espèce de loisir. Je n'ai jamais été pressé, je n'ai jamais eu l'impression qu'il importait d'être un adulte tout de suite. J'ai pris mon temps, j'ai fait des études sans histoire, sans difficulté aussi, je dois dire. Et je n'ai pas eu cette espèce de hâte que je vois chez certains jeunes gens d'à présent.
Merci Maurice Merleau-Ponty et qui sait, à bientôt. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni en compagnie de Manon de la Selle, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui a réalisé cette série d'émissions pour vous cette semaine. À la prise de son, c'était Anthony Thomasson. On se retrouve lundi prochain pour une journée spéciale organisée par France Culture et Radio France en général, dès 6h du matin autour du thème Émancipation générale, les combats pour l'éducation. Historiens, philosophes, scientifiques, sociologues seront à l'antenne tout au fil de la journée pour raconter comment l'éducation a été et reste un combat, y compris dans la République. Et pour l'occasion, nous recevrons l'imam Hassan Chalgoumi et nous réfléchirons au rôle de l'imam dans la République aujourd'hui. D'ici là, vous pouvez réécouter ces émissions en téléchargeant l'application Radio France, par exemple, parce que vous pouvez écouter les émissions en direct, mais aussi en téléchargement, donc en podcast, pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. On vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où on attend vos commentaires. À lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.